Bonjour et bienvenue à Point de vue, l'émission 100% cinéma à Montréal. Semaine chargée avec entre autres Prometheus de Ridley Scott et Moonrise Kingdom, le dernier né de Wes Anderson. Mon nom est Paul Landreau et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Ça va bien les gars?
Ah oui, ça va super bien.
Ah ouais, ça va super. On sort d'un screening de Moonrise Kingdom, donc comment ça peut ne pas bien aller?
Ah, méchante belle semaine avec ces deux films-là. Je pense qu'on était bien servis.
Ouais, puis super belle journée encore une fois. Gros soleil, c'est vraiment le début de l'été. Donc, ça fait du bien d'aller dans des salles fraîches et voir des bonbons cinématographiques comme ça.
Oh yes!
Mais avant, on va revenir sur l'actualité. Je viens de vous faire écouter, en fait, la bande-annonce de Flight est sortie, le nouveau film de Robert Zemeckis, cette fois-ci en live action, donc avec des acteurs.
On était dû, là. On était vraiment dû. Il fait juste du maudit 3D depuis une dizaine d'années, là.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, son dernier, c'était Castaway. Puis Castaway, on dirait ce qu'on voudra. C'est un bon film. Ça fonctionnait. Puis ça a vraiment marqué l'imaginaire collectif, hein.
Oui.
C'est un film que les gens se rappellent encore, que les gens louent encore, que les gens écoutent. Puis c'était pas mauvais.
C'est le gars de Back to the Future, de Forrest Gump, Roger Rabbit aussi, là. Je veux dire, il a quand même amené beaucoup au cinéma Zemeckis, là.
Ah oui, non, c'est clair. À l'époque, il était comparable à Spielberg, là, dans le sens que c'est un cinéma qui a vraiment marqué notre génération. Mais tu parlais, Pascal, d'un film que les gens louent encore, que les gens parlent encore. C'est vraiment le contraire de son dernier Mars Need Mums.
Ouais.
C'est un gros
mais c'est pas lui qui a réalisé Mars Need Mums.
Mais c'était pas lui qui avait produit?
Il a juste pas produit. Il produit beaucoup, en fait, un peu comme Spielberg.
Mais tu sais, comme mettons le Polar Express, ça a été un hit, ça? J'ai aucune idée.
Ces trois derniers, c'était Polar Express, Beowulf, puis Christmas Carol.
Ouais, Polar Express, je pense, c'est lui quand même qui a eu le plus de succès du lot, là.
Ouais.
C'est rendu un peu un classique du temps des fêtes, j'ai l'impression. Tandis que Beowulf, c'était pas mal mauvais. Mais bon, Flight, finalement, la bande-annonce est sortie. Et en fait, j'ai fait des recherches parce que j'ai trouvé ça étrangement similaire à Piché, le film québécois qui m'en mettait Michel Côté.
Ouais.
Et j'ai fait une recherche et en janvier déjà, il y avait un article de Cyberpresse qui mettait en doute en fait ce projet-là. Il trouvait ça troublant, la ressemblance entre les deux synopsis.
Mm-hmm.
Et puis Piché, en fait, pour ceux qui l'ont vu, ben une des forces du film, je pense, c'est les scènes vers la fin où est-ce qu'il y a une espèce d'accident d'avion qui me rappelait justement un peu la scène d'écrasement dans Castaway au début.
Mm-hmm.
Parce que au niveau des effets spéciaux et tout ça, et même de la mise en scène, ça n'avait rien à envier à un film américain. Et puis là, c'est justement drôle de voir que ce même Robert Zemeckis qui a réalisé Castaway réalise Flight, qui serait peut-être un remake non avoué de Piché.
Mais donc, il y a une controverse, parce que si... est-ce qu'il y a une controverse, en fait? Est-ce que c'est un remake non avoué ou...
Pour l'instant, je pense qu'on murmure ça entre les branches. Il n'y a pas eu de sortie en règle du studio officiel. Je pense que mais que le film sorte à l'affiche, il va peut-être avoir plus de remous.
Okay, ouais.
Mais c'est sûr que je pense que le studio, si a le droit à des compensations de droits d'auteur, mm-hmm. je pense qu'il aimerait bien ça les avoir.
Ben, en fait, c'est plus... Moi, d'après moi, c'est un peu plus moral parce que, tu sais, Piché, c'est basé sur une vraie histoire, donc... Tu fais comme un film basé sur une vraie histoire, mais sans avouer que c'est basé sur l'histoire. Il me semble que c'est un petit peu moralement croche, non?
Ouais. Mais ça pourrait être une coïncidence.
Ben oui, c'est ça. En même temps, c'est pas le synopsis le plus extraordinaire de tous les temps non plus.
Ben quand même. L'histoire d'un avion qui crache, que le pilote réussit miraculeusement à sauver l'avion et la moitié de l'équipage.
Un passé de drogue aussi.
C'est ça. Puis là, on se rend compte que finalement, il avait bu, puis il y avait de l'alcool dans son sang lors de l'atterrissage. Et que plus tard, on voit ça dans l'annonce de Flight, ils refont des tests pour simuler ce qui arriverait si d'autres pilotes étaient dans la même situation et tous les autres pilotes échouent. Ça fait très, très Piché.
Pour ne pas dire cliché.
Ouais. je lis le mot.
Ouais.
Autre bande-annonce, cette fois-ci, qui fait moins dans la controverse, il y a quand même une controverse aux États-Unis, j'ai l'impression, de par son sujet, c'est la bande-annonce de Django Unchained de Tarantino.
Pourquoi la controverse?
C'est parce que c'est quand même un sujet délicat, là, la ségrégation des Noirs, l'esclavage. Puis, tu sais, je veux dire, Tarantino a souvent été attaqué au cours de sa carrière, entre autres parce qu'il utilise, mettons, les mots nigger dans ses scénarios, dans ses films. Je sais que Spike Lee a déjà attaqué Tarantino.
Ah, mais tu sais, Spike Lee a attaqué tout le monde aussi.
Lee a attaqué Clint Eastwood, tu sais.
Tarantino, c'est un peu, je trouve, le Eminem des cinéastes, là, c'est qu'il disait, tu sais, je suis blanc, mais j'ai plein d'amis noirs. T'sais, c'est parce que je connais ce milieu-là que j'en parle. Puis qu'est-ce que vous préfériez que, genre, j'en parle pas du tout, puis que je fasse juste des films avec des blancs?
Mais non, puis il n'y a pas à se défendre, là, voyons.
Non, il n'y a pas à se défendre, mais en tout cas, la bande-annonce de Django Unchained, vous trouvez ça comment?
Ah, ben moi, j'ai trouvé ça super bien, mais moi, je t'en avais parlé un peu, Paul. Je dis que, tu sais, Tarantino qui fait un western, c'est un peu comme une formalité. Puis Tarantino, c'est pas un cinéaste qu'on s'attend à ce qu'il fasse des films formalité, tu comprends? Chaque projet est déroutant, c'est ça qui est beau.
Mais ça fait longtemps qu'il en parle, ça fait longtemps qu'il fait longtemps qu'il en parle.
Mais tu sais, comme mettons Tarantino qui fait un sci-fi par exemple, là t'as quelque chose d'intéressant sous les dents. Tarantino qui fait un western, t'es comme moi, hein, tu t'y attends. Mais faut dire que quand j'ai vu le trailer, j'ai été vraiment agréablement surpris. Pas surpris parce que, tu sais, moi je suis un fan de Tarantino quand même, puis tu sais, on sait que c'est des films qui sont vibrants, que c'est des films qui sont intéressants, ne serait-ce que de par la forme. T'sais, c'est des films le fun, c'est du bon divertissement, c'est du bonbon. Ben, effectivement, la bande-annonce de Django Unchained, ça laisse présager ça. En même temps, je pense qu'il y a un deuxième degré de message un peu social, entre guillemets, historique sur l'esclavage noir et tout. Pourquoi pas? Non, moi, j'ai vraiment trouvé, je trouvais que ça marchait au bout, puis encore une fois, on a hâte de voir, là.
Moi, je trouve qu'il a l'air plus pesé puis un petit peu plus discret, celui-là. Je sais pas pourquoi, là. Mais il me semble que d'habitude, les bandes annonces de Tarantino, ils frappent un petit peu plus. Puis là, je trouve que c'est. Ben, c'est peut-être comme tu dis, Tarantino qui fait un western, c'est un peu classique parce que même dans son dernier Inglourious Basterds, il y avait un peu de western là-dedans. Dans Kill Bill, il y avait un peu de western. On dirait que là, je vois le trailer puis je suis comme. Je suis pas étonné puis je suis pas thrill. Je suis certain que je vais adorer, là. Un coup que je vais regarder le film, mais on dirait que la bande annonce, elle vient pas me shaker, là.
Mais en même temps, Tarantino est capable de faire une mise en scène classique qui marche. C'est ça qui est beau. Parce que, tu sais, Tarantino, oui, c'est sûr là, qu'on peut l'aimer pour ses extravagances. Mais moi, là, de sa carrière, je trouve que les deux scènes qu'il a réalisées, qui sont peut-être les meilleurs testaments d'un bon réalisateur à la barre, là, comme d'un maître à l'œuvre, parce que, bon, c'est sûr qu'il est reconnu pour ses scénarios la plupart du temps, mais c'est un bon réalisateur, il sait comment monter la tension. Les deux scènes en question que je parle, c'est l'intro d'Inglourious Basterds.
Ouais.
Qui est quasiment juste un chant contre chant, là, on s'entend, mais c'est tellement calculé, c'est tellement bon, c'est tellement. Puis c'est pas juste le scénario, c'est la mise en scène. Quand est-ce qu'il révèle qu'il y a les gens qui sont cachés en dessous?
Ah oui, cette scène-là, c'est merveilleux. C'est puis le jeu aussi des métaphores, justement, qui sont en dessous dans la société de eux. Et, ouais.
Exactement, non, c'est ça. Puis c'est très, très, très calculé. Et puis l'autre scène qui est strictement de la mise en scène, puis qui est peut-être la plus belle, puis la mieux maîtrisée de tout la filmographie de Tarantino, à mon avis, ce serait la séquence dans le mall dans Jackie Brown. Comme l'utilisation des points de vue, puis les retours, puis qu'est-ce que les gens savent, puis comment que la caméra s'attarde sur la vallée, sur des détails, sur... C'est vraiment, là, c'est une scène qui est extrêmement le fun à décortiquer d'un point de vue mise en scène, puis qui est très, 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 très bien fait. Donc, Tarantino, moi, je pense que c'est un meilleur metteur en scène, je crois, que ce qu'on lui donne du crédit.
Ouais, moi, je dirais peut-être que la bande-annonce ne m'excite pas plus qu'il faut. Je pense que j'ai déjà atteint mon paroxysme d'excitation, mais je trouve pas que la bande-annonce soit si efficace que ça, contrairement à d'autres bande-annonces qu'on a vues cette année.
Ouais, ben, peut-être. Puis le marketing créatif, tu sais, ben, on va parler de Prometheus. Prometheus, le marketing était extrêmement créatif, puis ça faisait baver, là.
Puis peut-être que là, où est-ce que Tarantino livre sa promesse, peut-être que Prometheus, c'est plus sur le marketing qui est fort, mais on va en parler plus tard.
Ben ouais, OK, on va en parler plus tard. la seule affaire, juste pour finir un peu, là, tant qu'à parler de bande-annonce, c'est ça. Tu sais, Tarantino, ce qui m'inquiète un petit peu avec Django Unchained, c'est que sur la bande-annonce, c'est marqué « teaser », mais c'est une bande-annonce de 2 minutes et demie. J'espère que c'est pas un teaser, bordel. Parce que c'est quoi? Ça va être quoi le trailer? Ça va être qu'on va voir toute l'histoire puis qu'on va tout voir.
Ouais, pas qu'on abuse, là, c'est ça.
Hey, my God, t'as pas besoin de plus que ça. Hey, j'espère pas. Ouais. Tu sais, Cosmopolis, le teaser durait 30 secondes puis c'était malade, là. Ça marchait super bien.
Ouais, mais là, c'était tellement pas dans le mood du film, par exemple, là.
Ouais, c'est sûr. Ouais,
ça met là, tout le monde, ça induit tout le monde en erreur, cette bande-annonce-là.
Mais peut-être que par teaser, c'est pas nécessairement par durée, mais c'est parce qu'en ce moment, je pense qu'il est encore en tournage et puis qu'il a pas fini la. Ou sinon, il vient de finir le tournage, mais tu sais, il n'a pas encore monté ses scènes, tout ça. Donc, je pense qu'une fois qu'il va avoir de quoi de vraiment bien s'éter, là, il va sortir une bande-annonce finale. Mais je pense que c'est ça qu'il veut dire par teaser.
Mais c'est que t'as pas besoin d'en voir plus avant le film. Je veux dire, la réputation de Tarantino le précède. Les gens vont aller le voir. Le western fait pas courir les foules anyway. Fait que c'est pas avec le trailer sur le site d'Apple que tu vas aller gagner autant de gens. Là.
Ben justement, t'as besoin d'autant plus de faire découvrir les gens. Ouais, vu qu'aux États-Unis, c'est vraiment un sujet délicat, faut vendre le projet aussi. Il faut montrer. Non, c'est pas un film raciste. Là, ben, pensez pas ça.
Mel Brooks en a parlé déjà dans les années 70, genre.
Blazing Saddles. Ouais. Ouais, c'est sûr.
Ouais, mais là, c'est traité du point de vue très sérieux. Puis déjà, dans l'annonce, il y a une ligne, c'est « Killing white people and getting paid for it, what's not to like? Ouais. » Donc, je peux comprendre que c'est délicat aux États-Unis, puis j'ai l'impression qu'on va voir plus qu'une bonne annonce. Mais bref, à suivre là-dessus. Cette semaine, il y avait une annonce très particulière d'une conférence de presse conjointe avec Fantasia et le Festival du Nouveau Cinéma. J'y suis allé et finalement, c'est en fait la première fois que Fantasia et FNC s'associent pour célébrer cette année les 100 ans de la Nikkatsu. Nikatsu, qui est un des plus vieux studios japonais. Et bon, pour ceux qui ne le savent pas, l'industrie au Japon, c'est assez semblable à l'industrie aux États-Unis. Il y a comme 3-4 méga studios, plus des indépendants. Donc, Nikatsu, c'est un des très, très vieux, fondé en 1912, comme d'ailleurs la Paramount et Universal, je crois.
Oui, ouais, c'est ça.
Et c'est ça, ils vont présenter cette année une quinzaine de films japonais. Ce qui est intéressant, bon, outre le fait que déjà c'est des films restaurés, c'est une tournée mondiale d'ailleurs, ça a déjà joué à New York et à la Cinémathèque de Paris, mais c'est que c'est des films, t'as la première comédie musicale japonaise qui date de, je pense, 1939.
Ah, malade!
T'as aussi, j'en ai marqué plusieurs sur la page Facebook, il y a un film de 1897 qui va être présenté. On parle d'un des premiers films japonais. Ça va sûrement durer seulement quelques minutes.
Ben, secondes, même secondes.
Ouais, ça se peut que ça soit 50 ouais, secondes. Ouais, c'est la ça. Caméra des lumières, c'était 52 secondes. Là.
Ouais, donc en tout cas, il va y avoir un film. Ça, c'est le plus vieux film qu'il va présenter. Il va également y avoir un film récent de Kiyoshi Kurosawa, qui est considéré comme l'un des plus grands cinéastes japonais de notre époque. Son film, c'est Charisma.
Oui, juste un petit bémol. Kiyoshi Kurosawa a gagné son respect. Parce qu'au début, il était quand même, il faisait du J-horror, c'était un peu générique. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il était perçu comme un réal parmi tant d'autres qui faisait du J-horror puis tout ça.
Ouais. Mais en 2012, c'est considéré comme.
Oui.
Puis il y a eu aussi, il a pas eu gagné l'Oscar du meilleur film étranger d'ailleurs avec Tokyo Sonata.
Non, ça n'a pas gagné l'Oscar, ça a été nominé pour l'Oscar si je ne me trompe pas. C'est un très 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 beau film d'ailleurs, Tokyo Sonata, si vous ne l'avez pas vu les gars.
Mais donc bref, c'est ça, une quinzaine de films et ça va être diffusé à la Cinémathèque québécoise, c'est un des partenaires. Et particularité, c'est qu'il va y avoir un badge commun, donc pour cette rétrospective uniquement. Donc vous allez pouvoir payer pour un badge, aller voir les 5 films qui vont être présentés pendant Fantasia. Avec ce badge-là, et garder le badge et en octobre, aller voir les 10 autres films qui vont être présentés dans le cadre du FNC.
Ah, c'est cool,
c'est beau de voir une coalition comme ça entre les festivals, parce que tu sais, à un moment où justement la salle de l'ONF...
Ça va mal pour le cinéma.
Ça va mal pour le cinéma, la salle de l'ONF, les festivals, ils pourront plus en profiter, tout ça. C'est beau de voir une mobilisation des gens qui se serrent les coudes interfestival, parce que je sais que... je sais pas c'est quoi les relations entre les festivals... mais tu sais, c'est sûr que c'est un peu de la compétition dans un sens, là.
Oui,
clairement.
Clairement.
Bon, en tout cas, je peux pas parler à travers mon chapeau, mais je pense que le FFM puis le FNC, c'est pas l'amour fou, là.
Non, mais c'est sûr qu'ils ont des publics différents, par exemple, là. Je veux dire, ils vont pas chercher le même genre de personnes. Puis tu sais, j'ai parlé à justement un des programmateurs de Fantasia, puis ce qu'il disait, c'était que, ben justement, tu sais, cette collaboration-là était possible parce qu'ils vont pas chercher le même genre de gens. Puis, tu sais, à Fantasia, des fois, ils font des projections spéciales qui correspondent un petit peu plus au genre de l'autre festival. Comme, par exemple, cette année, il va y avoir une projection de... C'est une nouvelle copie de Dans le ventre du dragon, un film québécois. Je sais pas si vous connaissez, là. C'est un film fantastique québécois, là. C'est peut-être un scoop, en fait. Ouais, je sais pas officiellement si ça a été annoncé.
Je sais pas si...
Fait que je sais même pas si j'ai le droit de le dire, en fait, là.
Donc, semblerait-il que peut-être
il y aura une projection spéciale de Dans le ventre du dragon. Puis, relativement à ça, ben, c'est que l'autre festival, c'est un peu le même genre de public. Donc, ça, c'est le genre de films qui peuvent se partager. Donc, je sais pas si ça va passer à l'autre festival, mais je pense que l'autre festival va avoir des films un petit peu dans le genre de Fantasia aussi pour combler comme ça.
Mais le FNC est fort sur le cinéma de genre quand même. La section Temps Zéro au Festival du Nouveau Cinéma, il passe énormément. Ben, tu sais, juste on parlait de Saya Samurai la semaine passée, mais tu sais, il passe énormément de films de genre là-bas. C'est une grosse section dévouée à ça qui recoupe beaucoup, beaucoup la programmation de Fantasia quand même.
Ouais, ben d'ailleurs, je sais pas si t'es au courant, mais Temps Zéro, c'est programmé par Julien Fronfred, qui est un ancien de Fantasia.
C'est ça, c'est ça.
Donc, c'est sûr qu'il y a des liens à faire entre les deux festivals. Et d'ailleurs, justement, c'était. Ben, vous avez sûrement entendu parler de. C'est Macerola, qui est à la tête de la SODEC, qui a invité les festivals à une discussion, qui aimerait ça éventuellement regrouper. Ça fait des années qu'on en parle, de faire un gros festival à Montréal international pour essayer de concurrencer Toronto, qui est rendu dans une ligue complètement à part de tout ce qui se fait à Montréal.
Ouais, c'est ça, quand même.
Quoi qu'à une époque, le Festival des films du monde, c'était quand même grand, mais plus maintenant. À cette conférence de presse-là, on voyait vraiment la volonté, en fait, d'une ouverture. Il y a eu plusieurs questions des journalistes. Entre autres, est-ce qu'il pourrait y avoir éventuellement un badge commun, mais pour tous le festival, tu sais, avoir une badge qui te permet dans l'année d'assister à Fantasia et à FNC, une espèce de prix unique. Là, tu payes 150$, puis tu vas voir tous les films en juillet et en octobre.
Ouais.
Encore là, ils disent que c'est un premier pas. On va voir comment ça marche, cette rétrospective-là. Puis encore, ils ont dit que ce qui était le fun là-dedans, dans ce projet-là, c'est que il n'y aurait aucun des deux festivals qui aurait pu le faire seul parce que c'est un projet qui est trop gros. C'est un projet aussi qui va donner la visibilité à Montréal parce que c'est une rétrospective qui passe à New York, à Londres, à Paris et maintenant à Montréal. C'est affiché partout dans les... Tu sais, dans chaque ville qui va passer, t'as les... Le
tu vois la tour, officiel. La tournée, ouais, c'est ça.
C'est ça. Donc ça ajoute à Montréal. Et puis, il y a eu une question d'un journaliste qu'on connaissait déjà la réponse, mais est-ce que le FFM était approché? Est-ce qu'ils étaient intéressés? Faut rire dans la salle. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que le FFM, pour ceux qui le savent pas, ben c'est le festival détesté de Montréal. C'est dans le sens que le FFM, ce fut, il y a très longtemps, un excellent festival, mais maintenant, qu'est-ce que c'est le FFM? Ce n'est plus que la coquille de ce que c'était.
Ben, je pense que ça appartient comme à un gars qui a beaucoup trop d'argent puis qui tient beaucoup trop à son festival, même si tout le monde hésite d'arrêter. Là. C'est un peu plus comme au privé, c'est moins comme une organisation, je pense, qui fait ça, right?
Non, le FFM, justement. J'ai fait des recherches, en fait, parce que j'ai goût d'en parler. Moi, ça fait 4-5 ans que je suis à Montréal. Je suis très, très actif dans les festivals. J'ai travaillé dans beaucoup de festivals. J'assiste en tant que spectateur dans les festivals. Pour moi, je trouve que ça fait partie de la cinéphilie. C'est très important pour une ville, surtout une ville comme Montréal, qui se veut ville de cinéma.
Culturelle, ouais, c'est ça.
Ouais. Là où est-ce que je vois que Fantasia s'améliore d'année en année, il y a de plus en plus de films, il y a des gros films.
Le FNC, ça s'en vient gros aussi. Le FNC s'en vient chaque gros. Chaque année, là, il y a des huge films. Là,
puis... Ouais, puis il y a des invités de marque aussi.
Exactement, exactement.
Puis il n'y a pas juste la diffusion des films aussi, il y a également des événements, des marchés, des rétrospectives. Tu sais, c'est tout ça qui fait un festival. Un festival, ce n'est pas que de passer des films en boucle. Mais le FFM, d'année en année, ce que je vois, c'est une diminution des invités. Il n'y a pratiquement plus personne. Il y a des amis proches, finalement, de Serge Lozic, qui est le président du FFM, comme Gérard Depardieu, qui vient donner une classe de maître. Mais à part ça, il n'y a pratiquement rien. C'est vide. Il n'y a pas d'événement spécial. Qu'est-ce que c'est le FFM? En fait, c'est qu'ils bouclent le Quartier Latin. Ils mettent des centaines de films là-bas. Et puis après ça, ils disent, ben, on est les plus gros, on a besoin de beaucoup de subventions, on fait jouer 400 films. Ouais, mais parmi ces films-là, il n'y a pas de sélection. Il n'y a pas de programme de sélection au Festival des films du monde. T'sais, il n'y a pas de tri qui se fait parmi ce qui se font envoyer. Mm-hmm. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de passer le plus de films. Bon, on a des films du Vietnam cette année, on a reçu 3, parfait. On fait jouer les 3 films du Vietnam. Est-ce qu'on a des films d'Amérique latine, on en a 50, OK, il fallait tout jouer, tu sais, ou faisant jouer 40 sur les 50. Donc, ce qui se passe, c'est que... regardez, OK, regardez la programmation de 400 films du FFM de l'année passée, et puis combien sont arrivés en DVD, combien avez-vous entendu parler de ces films-là, il y en a combien qui ont gagné des prix dans le monde, il y en a combien qui ont joué dans d'autres festivals que le Festival des films du monde.
Ouais, mais...
Bon, l'année passée, là...
Mais des fois, c'est le plaisir aussi de voir un film, justement, qui sera pas sorti en DVD puis que tu n'auras jamais la chance de revoir par la suite, là.
Ouais, mais un festival, je pense, c'est une balance entre des films, comme tu dis, que des découvertes, mais des films de qualité aussi. Le problème avec le FFM, c'est qu'il n'y a plus de contrôle à la qualité. C'est juste, on essaie juste de faire le plus gros. Et puis c'est ça, là-dessus, je trouve que le FFM, c'est qu'ils s'assoient sur leur laurier, sur leur tradition de « on a toujours été le plus gros festival de Montréal ». Donc, on a besoin de plus de subventions.
Mm-hmm.
Aussi, comment ça marche, le système de subventions au Québec et au Canada? C'est selon le nombre de spectateurs. C'est l'un des critères les plus importants. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent plein de films dans les salles du Quartier Latin. Et puis, évidemment, ben là, il y a tellement de films que le monde va voir les films. Ou bien, ils mettent des films à l'Impérial, où est-ce qu'il y a 800 places. Et puis, l'Impérial qui appartient d'ailleurs au FFM, donc il n'y a pas de frais de location. Et ce que ça fait, c'est qu'évidemment, quand il y a 400 personnes sur 800 qui sont là, bien, ça fait augmenter l'assistance. Puis là, à la fin du festival, ils peuvent dire oh, « on a eu 300 000 spectateurs cette année ». Et puis cette année, en 2012, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Les étudiants en cinéma et en journalisme peuvent demander une accréditation pour voir tous les films.
Ben, ce qui est bien, mais toi, tu vois quelque chose d'un peu...
Ben oui, dans un sens, c'est bien. Mais pourquoi est-ce qu'un festival donne l'accès gratuit à des étudiants? Est-ce que c'est vraiment par gaieté de cœur ou c'est pour gonfler encore plus leurs chiffres? Mmh. Moi, je vois ça comme le geste désespéré d'un festival qui se meurt. Et puis, c'est sûr que c'est bien pour les étudiants en cinéma, là, tu sais, je veux dire, demandez-le votre accréditation. Là. Vous avez juste envoyé un email sur le site du Festival des films du monde. Vous m'envoyez un email pour avoir l'accréditation en tant qu'étudiant. Puis vous allez pouvoir avoir votre accréditation. Mais ce que vous faites quand vous faites ça, en fait, et quand vous allez voir des films, c'est que vous participez à donner votre... C'est comme un vote, finalement. C'est très politique. C'est comme on vous dit, c'est gratuit, venez voir. Et puis là, s'il y a 100 000 spectateurs de plus cette année qui vont y aller grâce à ça, et bien pour eux, ça va leur faire plus de subventions.
Mmh. Subventions qui sont évidemment limitées, puis qu'il y a un bassin X d'argent à donner pour subventionner des festivals de cinéma. Et donc, oui. OK, ouais, c'est ça, je comprends ce que tu veux dire par là, c'est qu'il enlève un peu quelque chose comme à des festivals qui sont beaucoup plus légitimes d'un point de vue cinéphilique. C'est ça que tu dis dans le fond.
C'est ça, c'est que dans le fond, en ce moment, c'est que Fantasia et FNC qui ont vraiment une renommée là, très, très importante.
Ouais,
là,
ouais,
là,
ouais,
là,
ouais, c'est ça.
Comme beaucoup plus que la FFM. Là. Genre, Fantasia, oui, ok, c'est des cinémas de genre, mais on en parle là,
dans plein de sites web. On en parle à travers le monde, oui.
On en parle à travers le monde. En Amérique du Nord, c'est très connu. Le FNC, bon, c'est sûr que c'est peut-être pas aussi gros que Fantasia dans sa branche, mais le FNC, on en parle beaucoup. Il y a tellement de bons films qui viennent, plein de cinéastes qui viennent.
C'est bonne première, hein? Je veux dire, le film, là, L'emploi du temps de Laurent Cantet, avait fait sa première au FNC, avait gagné la Louve d'or au FNC en 2001. Puis maintenant, écoute, Laurent Cantet, c'est Palme d'or avec Entre les murs. Puis le film L'emploi du temps, c'est un film qui a été vu partout dans le monde puis qui a gagné des prix partout dans le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que tu regardes les grands prix des films du FNC, puis il y a plusieurs films qui ont transcendé le temps, puis qui sont vraiment là, tu sais, tu regardes les gagnants, je sais même pas s'il y a des gagnants au FFM, c'est comment ça fonctionne?
Il y a un prix du public, en fait, l'année passée, c'était Alta La Vista, puis il y a un prix aussi du jury, mais il y a plusieurs prix du jury, en fait, mais là, je suis pas sur le site web du FFM, mais bon. Pour les subventions, j'ai fait quelques recherches, c'est très, très compliqué de trouver des chiffres. En fait, je pense que c'est très tabou. Mais comme en 2005-2006, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait déjà eu l'idée de faire un festival international des films de Montréal qui regrouperait, en fait, l'argent alloué au FFM et au FNC. Ça avait été un flop monumental et résultat, en 2005-2006, le FFM n'avait pas eu de subvention. Mais en 2007, on est retourné aux subventions qu'il y avait jadis. Et en 2010, le FFM a reçu 725 000 du gouvernement du Québec et 352 000 de Téléfilm Canada. Pour comparaison, Fantasia, en 2009, a reçu 110 000 $ et le FNC, en 2009, 250 000 $ Mais ça, c'est pas tous les chiffres, là, parce que je pense qu'il manque quelques chiffres encore, mais c'est les chiffres que j'ai pu trouver. Mais on peut déjà avoir une ordre de comparaison. Bref, le FFM a la grosse part du gâteau, alors que la qualité n'est pas nécessairement au rendez-vous. Donc, en tout cas, je veux pas... m'étaler plus que ça, mais juste un petit... Ça me tentait un peu de mettre les cartes sur table parce que quand je vois que le FFM est tellement content d'annoncer qu'on offre des accréditations aux étudiants gratuitement, est-ce que c'est une bonne nouvelle? On peut en débattre, mais pour moi, c'est surtout le geste d'un festival qui se met. Donc, bref, en film maintenant, cette semaine, Pascal, tu as vu le film Sans dessin, un film québécois de Caroline Labrèche et Steve Léonard.
Ouais, puis je vais y aller super vite parce que, écoute, on a des gros plats sur le menu tantôt avec Prometheus puis avec Moonrise Kingdom. Mais en gros, c'est un film que Rémi, tu m'as passé en DVD.
Ouais, moi, je l'ai vu deux fois, en fait. Puis, je l'ai vu une fois à Space puis une fois à Fantasia, puis c'était le délire dans la salle, là. Ça passe super, super bien, là.
Ben, c'est ça, on peut en parler tous les deux en même temps. Dans le fond, le synopsis, c'est quoi? C'est une espèce de petite indie-comédie, no budget, là, faite par du monde. En gros, j'ai vu dans le making-of, là, c'est un peu une crise de trentaine qui a été canalisé en énergie créative pour faire un film sans attendre les subventions et bon, c'est vraiment ça le contexte là, de création du film. Puis effectivement, c'est fait par Steve, je sais plus quoi, puis Caroline Labrèche, je pense.
Steve Léonard.
C'est un couple dans la vraie vie. C'est une comédie romantique. Ils jouent un would-be couple dans le film, éventuellement. Donc, une histoire d'amour qui se développe. Mais c'est vraiment... c'est un peu le tagline du film. C'est un peu une comédie romantique pour ceux qui n'aiment pas les comédies romantiques, vraiment. Parce que c'est un twist fantastique. Effectivement, ça joue à Space, mais à Fantasia. C'est une espèce de mélange entre Juno puis The Frighteners, là, tu sais. Espèce de feel de comédie indie américaine, puis avec... c'est une histoire de fantôme à la Peter Jackson, la humoristique à travers ça. Donc, en gros, le synopsis, ouais, non, c'est quand même cool. Ben, Rémi, tu veux-tu le dire un peu, c'est quoi le synopsis?
Le tagline, ils disent une comédie romantique, fantastique et scatologique. Faut que ça résume pas mal bien le film, là. L'histoire, en gros, c'est un gars qui reçoit un fantôme du futur. C'est lui du futur, en fait, qui vient le voir, puis qui dit tu vas mourir tout seul, puis il faut que tu te réveilles là.
C'est comme le temps un loser, de te réveiller. Ouais,
comme un loser parce que le gars, il a une job de merde. C'est le concierge d'une entreprise de conciergerie. Fait qu'il passe la mop dans la place où tous les concierges se retrouvent. Puis il a aucune passion. Il essaie de se trouver des passions en loin des VHS au club vidéo, des VHS de hobby. Fait que c'est vraiment un loser, là. Puis c'est ça, là. Il essaie de trouver l'amour. Puis le fantôme, il dit qu'il va trouver l'amour dans son kick du primaire. Fait qu'il faut qu'il retrouve la fille qui tripait dessus au primaire puis qui essaie de la séduire, là. Fait que c'est quand même vraiment bon.
Ouais, non, c'est pas un film qui est magnifique, entre guillemets, c'est pas un grand
mais
film.
Mais ça a l'air d'une proposition unique là, pour un ouais, film québécois.
C'est ça. Exactement, puis ça a beaucoup de cœur. Je pense que c'est ça l'objectif que je vais lui donner le plus.
C'est ça qui fait rouler le film, ouais.
C'est ça, exactement. Puis c'est vraiment beau, Caroline Labrèche, puis Steve, ils font notre famille, mais
Léonard.
Tout le temps. Léonard.
Steve Léonard. Léonard.
Steve Léonard, bon. C'est beau, en fait, leur chimie, parce qu'effectivement, c'est un vrai couple. Puis elle, en fait, la Caroline Labrèche en question, je trouve qu'elle a vraiment quelque chose aussi. Elle est comme super énergique, elle est comme super rayonnante. Elle, c'est le fun, c'est un film le fun, ça passe bien. Puis il y a tellement de quotes, c'est un film qui est quotable. Ça, on dirait que ça a toutes les cartes pour que ça puisse devenir un espèce de petit code classique, là, indie, pas vraiment connu, mais connu entre les branches. Puis. Tu sais, juste Rémi puis moi, là, depuis que je l'ai vu, on s'en est lancé une couple là, de répliques du film, puis c'est comme ça marche, là, c'est vraiment drôle. Puis effectivement, comme tu dis, Paul, c'est une proposition unique au Québec, un film no budget fait avec du cœur. Donc c'est ça, je voulais juste en parler vite comme ça pour stimuler les gens, d'un, dire aux gens que ce film-là existe, puis de deux, ben, pousser les gens à regarder un peu qu'est-ce qui se fait de façon alternative au Québec.
Ça, il est sorti en 2009, à ce que je vois, donc ouais. C'est disponible en DVD.
Exact.
Parfait. Moi, cette semaine, j'ai vu...
Puis je pense que en fait, oui. juste dire aussi, Paul, je pense qu'il est disponible en entier, gratuit, sur Internet. C'est à voir sur YouTube, c'est fort possible que ça soit là.
Mais c'était cautionné ou...
Oui, c'est eux autres qui l'ont mis en ligne. Là.
Okay.
C'est un film qui a rien coûté, là. C'est vraiment un film indépendant, mais il y a une distribution en DVD, mais ils ont décidé de le donner sur Internet aussi. Là.
Bon, ben on va chercher le lien, puis si ça se trouve, on va essayer de le mettre sur notre page Facebook.
Exact.
Donc, moi, j'ai vu cette semaine l'intriguant Seeking a Friend for the End of the World, le premier film de l'actrice Lauren Scafaria. Si vous la connaissez pas, c'est normal, elle n'a pas fait grand-chose. Mais c'est une jeune femme, finalement, qui a réalisé et écrit ce film. Et c'est vraiment un film d'auteur. En gros, la prémisse, c'est que c'est la fin du monde et un espèce d'employé de bureau qui travaille pour des assurances-vie, il cherche... en fait, un peu comme tout... C'est un scénario vraiment qui arrive tout accidentiel, comme toutes les... pas accidentiel, mais événementiel, comme tous des accidents, finalement, qui fait avancer le scénario. Puis bref, il y a sa voisine qui décide de l'accompagner alors qu'il cherche à retrouver contact avec sa petite amie du secondaire. Donc, le rôle principal, c'est joué par Steve Carell, qui est vraiment en retenue dans ce film-là. Et sa voisine, c'est la Keira Knightley. Ils font une espèce de road trip pour retrouver la femme de sa vie, entre guillemets, son amour de jeunesse. Bon, c'est sur un fond de fin du monde, mais c'est quand même une comédie très drôle, très noire. Okay. Okay. J'ai pas vraiment de comparatif. Peut-être un peu l'ambiance Zombieland, mais moins vraiment comédie burlesque. C'est plus dans la subtilité, je dirais. Mais il y a vraiment des scènes choquantes, en fait. Je vais vous donner un exemple, en fait, c'est peut-être le mieux pour vous expliquer le ton du film. Comme la première scène, c'est Steve Carell dans son char qui est à la radio, et puis là, il entend que c'est confirmé, la météorite... Ah, c'est ça, en fait, je voulais le comparer à Mélancolia. C'est comme l'anti...
Ben, il y a eu beaucoup de films, un peu, il y avait Another Earth, puis
ouais.
Mais même des films avec un peu avec des vibes indie qui...
Ben, vu, c'est 2012.
Qui attaquaient hein, la fin du monde, ouais.
Ouais, c'est ça. Mais ça, ça serait l'anti-Mélancolia. Parce que c'est ça, c'est l'histoire de météorite qui va frapper la Terre dans 3 semaines. Puis la première scène du film, c'est à la radio, un annonceur qui dit, bon, c'est confirmé plus que 21 jours avant que la Terre... explose, donc on va être là avec vous jusqu'à la fin, et d'ici là vous allez pouvoir écouter tous vos hits classiques ouais. sur telle radio, c'est puis là il y a comme une toune qui commence, je me rappelle plus quoi là, comme Preacher ou peu importe là. Donc puis là c'est Steve Carell qui écoute la toune avec un regard vide, puis après ça le lendemain ben il s'en va comme justement à son poste d'assurance vie, c'est de vendeur d'assurance, puis là ben il faut qu'il est au téléphone, puis il est comme non monsieur, votre assurance ne couvre pas la fin du monde, des trucs de même. Puis finalement tu sais il y a une rencontre, un meeting entre les employés. Puis là, il y a un gars qui dit « Ah, ben il y a plusieurs postes qui sont verts. Donc, si quelqu'un veut être VP finance, le poste est libre maintenant, parce que tout le monde décalisse du bureau. » Puis plus tard, il y a comme un party. Puis là, c'est vraiment comme, tu sais, il y a des enfants de 10 ans, puis là, ils font boire, puis ils sont comme, tu sais, whatever, tu sais, on va tous mourir anyway. Puis là, pas longtemps après, t'as des filles qui arrivent avec leurs gros sauts de genre à 1000$ de fourrure, qui ont sûrement volé, ou peu importe. Hein? Puis là, ils sont comme, hey guys, j'ai de l'héroïne. Puis là, comme ils commencent à se piquer dans le salon, tu sais, il y a comme, tu sais, il n'y a plus d'inhibition, là. Donc, le début est vraiment subversif.
Fait que c'est un traitement quand même un peu différent que le sacrifice de Tarkovsky, genre. C'est pas le
mot. Ouais, c'est ça, c'est vraiment différent. Par contre, ce qui est dommage, je trouve, c'est que environ vers la moitié du film, le film change de ton et ça s'en va vraiment plus vers la comédie romantique slash drame un peu comme conventionnel. Et puis, ça finit vraiment que tout l'humour qu'il y avait au début, tout l'humour subversif et original, et puis là, en fait, on n'en retrouve plus. Donc, je suis sorti très mitigé du film, alors que l'introduction laissait présager d'un film vraiment unique et original.
Hey, puis comment qu'elle est, Karen? Hey, moi, là, les gars, je fais un coming out. Moi, Karen Knightley, je l'aime. L'aimez-vous, vous autres? elle est vraiment underrated, hein. Je la trouve sous-estimée au coton.
Je trouve qu'elle a du talent, du potentiel, mais elle n'a pas tout le temps les meilleurs rôles.
Non, c'est ça. Bon, c'est ça.
Comme dans Dangerous Method, je trouve qu'elle est laissée à elle-même, qu'elle n'est pas vraiment dirigée, puis qu'elle tombe dans le piège. Je trouve que.
Oui, il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde qui ont changé sa performance, mais moi, j'ai trouvé quand même. Je veux dire, elle en mettait, là, mais elle faisait elle une folle. Mettait, là. Ouais. C'était là, elle avait l'air folle. Là.
Ça
marchait.
En tout cas, j'ai pas envie d'étayer ça plus que ça. J'aime Karen Knightley, puis je suis curieux de voir un peu qu'est-ce qu'elle fait.
Une déclaration d'amour.
Non, mais comme, ouais, une petite déclaration d'amour à Karen Knightley, puis je suis curieux de savoir comment qu'elle sort dans un film un peu plus indie, parce que tu sais, elle est pas réputée pour justement s'associer à des petits projets, là, on s'entend.
Non, mais elle s'en tire bien, puis. Mais encore là, je pense pas qu'il est dans la même trempe que d'autres actrices comme Michelle Williams ou. Je trouve que des actrices de son âge sont meilleures qu'elle. En tout cas, bref, tout ça pour dire que ce film-là, c'est une curiosité à voir peut-être si vous aimez les films un peu indie ou l'humour des fois différent. Ça sort le 22 juin en salle.
All right.
Et c'est ça.
Hey, pile ou face, Moonrise Kingdom puis face Prometheus.
Ben, on va commencer par Prometheus en fait, je l'ai toujours pas vu. Donc, les gars, vous allez me parler de Prometheus, ce film très attendu de Ridley Scott qui est sorti vendredi passé dans les salles.
Ouais, ben très attendu, oui, très, très, très attendu, mais il a pas réussi à faire plus d'argent que Madagascar 3 en fin de semaine.
Non, ça c'est drôle, mais c'est pas si surprenant, parce qu'en même temps, Madagascar, c'est un film pour toute la famille. Prometheus, ouais, ben, c'est un film d'horreur dans l'espace.
Ouais, et puis d'ailleurs, aux États-Unis, il est rated R, Prometheus, il est pas PG-13, oui, donc ça coupe beaucoup de public, là.
Ah ouais, mais tu sais, Batman,
mais par exemple, Pascal...
Non, Batman, il était PG-13.
Ouais, ouais, mais Batman...
Ah, pour vrai, OK. OK.
Mais tu sais, Batman, c'est un truc de super-héros aussi. C'est comme, tu sais, Avengers, tout le monde peut aller le voir puis tout le monde va triper. Fait que c'est sûr que ça fait un gros box-office, mais ouais. Prometheus, c'est un film d'horreur.
Oui,
d'horreur.
Mais c'est déjà qu'avec... Hey, puis Prometheus, là, qui a fait seulement...
Je sais, mais déjà avec un peu de gore puis des bébites, déjà, tu perds crissement du monde avec ça, là.
Laissez-moi rêver, laissez-moi être utopique puis de me dire qu'un film original fait par un master de la sci-fi puisse, comme, être le plus gros film, au moins le temps d'un week-end par-dessus, tu sais, un film bancable comme Madagascar 3, ouais. Tu sais. Laissez-moi au moins penser que c'est possible.
Mais t'as dit le mot-clé, t'as dit le film original. Si c'était marqué Alien Prequel, il y aurait peut-être fait plus d'argent. Si c'était là, c'est Prometheus. C'est un film que personne ne connaît. C'est comme Avatar, là. Bon, il a fait un shitload de monnaie, mais le premier week-end, il a fait seulement, entre guillemets, 75 millions.
C'est vrai pareil, c'est vrai pareil. Alors que là, on parle quand même d'un opening week-end à 50 millions avec une prémisse originale. Et je suis convaincu que le bouche-à-oreille va être bon, en fait, de Prometheus. Parce qu'effectivement, oui, Paul, ben, on dirait que tu prends pour acquis qu'on n'a pas adoré le film, mais moi, j'ai beaucoup aimé. Toi, Rémi, tu donnes ton thumbs up aussi.
J'ai vraiment adoré, là. Tu passes un super bon moment, là. C'est un gros trip, là. Tu sais, c'est un fun film. C'est un film cool à aller voir, là. Je sais pas, c'est rare que tu te fais embarquer dans un truc comme ça, justement, sans voir l'attachement déjà à un comic book ou à un livre ou à un autre matériel, là. C'est le fun de voir ça complètement original. C'est sûr, ça respecte une recette, là. On est vraiment dans une recette hollywoodienne.
Mais bon, on parle de complètement original, là. Ça, c'est quand même un film dérivé de l'univers d'Eliot.
C'est borderline prequel, mais Ridley Scott veut pas utiliser le mot prequel non plus.
Il y a quelques mais il y a quelques indices quand même, puis il y a notamment une scène vers la fin qui est comme clairement faite pour linker avec l'univers d'Eliot, mais tu sais, overall, c'est parallèle, c'est une histoire parallèle, c'est pas la même chose.
Ben, en fait, on va faire un peu le synopsis. En gros, c'est l'histoire, le Prometheus en question, c'est le nom du vaisseau spatial qui se rend dans c'est une lune, en fait, c'est pas une planète, c'est une lune très, très, très lointaine parce que, bon, c'est une lune qui est capable d'habiter la vie. Et puis, il y a plusieurs constellations et plusieurs, comme des peintures rupestres ou bien plein de trucs historiques
qui mettait une constellation précise sur le spotlight. Et puis là, dans le fond, c'est deux scientifiques qui ont fait les découvertes et qui ont étayé les découvertes, qui sont un peu à l'origine de tout ça, et qui se ferait comme quoi il y a les architectes, ils s'appellent les engineers en anglais, on l'a vu en anglais, qui, selon les deux scientifiques, auraient créé l'être humain, auraient dans le fond créé la vie sur Terre, et puis comme là, ils nous inviteraient dans le futur à venir les rencontrer lorsque l'humanité sera assez développée pour pouvoir faire des voyages aussi longs, et donc, bon. Et donc, le film se rend comme ça, l'équipage de 17 personnes se rend sur cette lune lointaine pour en découvrir un peu plus sur l'origine de leur existence et pour, croient-ils, rencontrer leur créateur. Mais bon, ça a l'air bien beau tout ça, il y a beaucoup de sceptiques à bord, les gens ne savent pas trop à quoi s'attendre. Et puis là, ils arrivent et puis là, ils découvrent, c'est ça, des caves, je pense. Mais en tout cas, en bout de ligne, c'est quelque chose d'autre, mais je ne veux pas spoiler rien sur le film. Et puis là, finalement, le fait de revenir là, que l'être humain arrive dans cet endroit-là, ça crée une espèce de trouble dans l'équilibre de la planète et dans l'équilibre de l'endroit qu'il visite. Et puis là, ben là, c'est là que tout vire au vinaigre et que l'horreur commence à prendre le dessus. Je vais rester un peu mystérieux comme ça pour l'instant. Toi, Rémi, t'en as pensé quoi?
C'est direct comme question. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, j'ai pas mal dit mon opinion en fait assez rapidement, là, mais c'est un film qui t'embarque du début à la fin. C'est un super, super bon trailer aussi. Il y a des moments quand même assez paniquants, une scène en particulier dans leur vaisseau. C'est dur d'en parler sans spoiler. Là. Je vais juste laisser ça très, très en suspens, mais il y a une scène assez paniquante qui rappelle vraiment les moments de tension du premier Alien. Puis ça faisait plaisir à voir. Là. Une scène
de On parle de la scène avec le scientifique dans le vaisseau. Cette scène-là va aller dans les annales des films d'horreur comme étant une des meilleures scènes. Écoute, tu sais, t'as la scène de la douche dans Psycho, t'en as comme plusieurs, mais tu sais,
classiques. Moi, ça me rappelait beaucoup le chest bursting dans Alien là, quand dans ils sont tous à la table. C'est un moment de tension comme ça là, que vraiment là, c'est.
Oh my god.
C'est fou, là. Ça, gros thrill. Mais sinon, c'est sûr que ce qui a été beaucoup reproché le film, puis tu sais, je peux seconder là-dessus, mais c'est le scénario parfois, il est un petit peu. Il nous garoche un peu à gauche et à droite, là. Comme. Plus ça va, en fait, plus ça avance, plus il rajoute des éléments, puis plus ça devient une grosse poutine. Ce qui est pas mauvais tout le temps, mais en même temps, on perd un peu le fil narratif. Comme là, tu sais, Alien, il y avait une. Alien, il y avait une bébite, puis là, on a comme une bébite, on a quelqu'un qui se transforme, on a toutes sortes de types de mutations, puis de bébites,
puis de menaces qui arrivent. Il y a même plusieurs sortes de dérivés de bébites, puis ouais, c'est ça, dans le premier théorie.
Fait que c'est là qu'à Mané, ça devient une poutine, puis on perd un peu le fil de quoi on doit s'attacher, mais tu sais... Ça marche. Ça marche super bien quand même.
La première heure marche particulièrement. Moi, j'ai trouvé que dans les plus beaux moments du film, c'est les moments les plus calculés et les plus, en guillemets, slow-paced. Comme il y a une séquence au début du film, par exemple, où ils sont dans le vaisseau, dans le Prometheus, et un peu comme dans Alien, ils sont tous en train de... Tous les êtres humains, parce qu'il y a quand même un personnage joué par Michael Fassbender, qui joue un androïde, David, il s'appelle. Et donc, David, lui, est réveillé pendant 2 ans. Pendant que les membres de l'équipage sont endormis. Et puis le film commence, une des premières scènes du film qui est une des plus belles. T'as juste David qui est tout seul dans le vaisseau pendant que les autres dorment. Il écoute Lawrence of Arabia, tu le vois jouer au basketball. Tu sais, il meuble son temps, entre guillemets, parce que la notion du temps pour un androïde n'est pas la même, mais c'est comme juste une belle séquence. Là. Ben, tu vois laquelle je parle, Rémi, là?
Ouais.
Avec Michael Fassbender tout seul dans le vaisseau, c'est juste magnifique. Ça crée, il y a une atmosphère qui est créée. Tu, avec cette séquence-là tout seul, tu comprends le poids de la solitude d'un voyage dans l'espace. Et puis, non, c'est magnifique.
Puis le casting de Fassbender est tellement juste là. C'est comme
Fassbender
en Android, c'est vraiment parfait là.
Oh, mais Fassbender pour être dans tous les films, ça serait parfait là. Je trouve vraiment c'est un acteur exceptionnel.
Il est vraiment très bon. Puis c'est une facette de son jeu qui n'avait pas encore été explorée jusqu'ici. Là, c'est très froid, très calculé comme personnage, mais tellement puissant. C'est un grand, grand, grand comédien. Je dirais que c'est peut-être la performance la plus mémorable du film. Noomi Rapace, qu'on avait vu dans l'actrice suédoise qui joue Elizabeth Salander, joue Elisabeth Shaw, le personnage principal du film. Elle fait bien la job, mais en même temps, c'est un rôle qui est un peu mince.
Mais est-ce que ça vaut Sigourney Weaver?
Non, c'est pas le même. Non, c'est plus fragile que Sigourney Weaver. Sigourney Weaver représentait. Ben, Sigourney Weaver, dans le Alien original, était quand même beaucoup plus fragile que l'image qu'ils lui ont donnée dans Alien, ben, le sequel de James Cameron.
Incomparable à Sigourney Weaver dans le premier, mais.
Dans le premier.
Plus féminine, par exemple. Sigourney Weaver est très masculine, là, quand même. Là. C'est one of the boys là, dans le premier Alien. Mais
c'est ça.
Une des grandes forces de Ridley Scott, même dans ses films les plus mauvais, c'est la composition et son aspect, vraiment son œil pour le côté visuel. D'ailleurs, il est reconnu à Hollywood pour faire lui-même ses storyboards.
Ah, Prometheus, ça déçoit pas. Hein. Non, visuellement, pas du tout. Puis visuellement, c'est vraiment... Puis d'ailleurs, énormément d'animatroniques puis d'effets spéciaux, en guillemets, organiques. Ça fait un beau contrebalanc à une tendance dominée par le CGI, les images de synthèse. Non, visuellement, là, c'est
ouais, ça faisait vraiment du bien à ça. Quand tu sens que les bébites sont là sur place, là, sont tellement bien faites que ils pourraient être vrais, là.
Exactement. Moi, j'aimerais ça parler un petit peu de la dimension mythologique slash un peu religieuse derrière le film. Parce que, écoute, c'est un film qui, même si... Bon, moi, la plus grosse critique négative, la seule, en fait, vraie critique négative que j'ai à faire de ce film-là, c'est c'est d'utiliser les mêmes conventions que Ridley Scott a aidé à créer, tu sais. C'est que, écoute, en 79, il fait Alien, en 82, il fait Blade Runner. Ces deux films-là sont des films forts dans l'univers de la science-fiction. Pour faire un tour du chapeau de sci-fi mémorable, il est passé un petit peu à côté pour la simple et bonne raison que c'est un petit peu le même genre de construction que Alien, justement. Tu sais, ça n'a pas beaucoup été au-delà de conventions que lui-même a créées.
En même temps,
on aurait espéré que, tu sais, un vrai qui revisite le genre de façon plus drastique.
Mais pour Ridley Scott, c'est pas déjà une bonne chose. Je veux dire, après, justement, Blade Runner, sa carrière, il n'a jamais vraiment, je pense, tenu les promesses qu'il s'est lui-même fixées. Dans le sens que, comme tu le dis, ses premiers films, c'était vraiment des films marquants et innovateurs. Tandis que pour les 20 prochaines années, il a pas mal fait des films de commande il a pas fait grand-chose. Là, déjà, je pense qu'il y a un regain de passion chez lui. Il veut également faire une suite à Blade Runner. S'attaquer à ses œuvres les plus chéries, je pense que il faut que tu assumes ton choix.
Et le pari est quand même gagné. Le pari est quand même gagné parce que Prometheus, c'est très bon. Mais ma petite déception vient du fait qu'on s'attendrait à plus un petit peu. On s'attendrait à ce que tu te dises, garde, il a façonné un genre dans un sens, puis tu te dis maintenant, qu'est-ce que le maître va nous donner plus qu'on connaît pas déjà dans ce genre-là?
Un peu comme quand Wes Craven revient à l'horreur.
C'est ça, tu te dis, c'est le moment là, d'élever encore, d'encore monter la barre de la sci-fi slash horreur. Puis quand tu dis tes films marquants, Alien, écoute, juste le fait de faire un film d'horreur
dans l'espace.
Et dans l'espace, était en soi novateur. C'est assez, maintenant, oui, parce qu'il y a tellement eu de pastiches puis eu de films qui ont été inspirés d'Alien qu'on en oublie peut-être son importance historique. Mais grosse, c'est un film qui est... Ouais, vas-y, excuse, Rémi.
Une grosse innovation aussi, c'était que les gens faisaient des trucs casual dans leur vaisseau. T'sais, les sci-fi, c'était vraiment les postes de commande puis tout. Puis lui, ben, t'as une scène où les gens mangent dans un vaisseau. Les gens sont normaux, ils vivent normalement.
Le microcosme de société dans un endroit restreint qui est le vaisseau spatial, par exemple, dans Alien.
Ben, en tant que science-fiction, ça n'avait pas vraiment été fait. Puis, tu sais, même.
Il y a quand même 2001.
Un petit peu dans le début, mais après ça, quand on est dans le vaisseau, c'est vraiment plus les ordinateurs, puis la mission elle-même. C'est pas la gang qui mange leur sandwich en jasant n'importe quoi.
Il y a quand même des scènes de jogging, puis, tu sais, ils jouent aux échecs avec l'ordinateur, l'intelligence artificielle.
Peut-être, mais quand même.
Mais reste que c'était plus froid, tu sais, c'est pas l'ambiance de gang, puis t'as tous les personnages qui sont présentés comme ça. C'était comme
c'est
un peu comme en fait la scène avec David justement dans Prometheus où ils meublent leur temps, mais c'est pas la scène casual là, de
Exact.
Et puis, il faut dire aussi que
vous savez comment Ridley Scott l'avait vendu, c'est très connu, comment il a vendu l'idée, que pitché l'idée de Alien au producteur.
Je pense que c'est Jaws in Space, hein.
Jaws in Space. Mais ce qui était magnifique, c'est qu'il était assez bright pour aller plus que ça. T'sais, là où il y aurait tellement de films qui auraient juste fait un Jaws in Space très, très, très convenu, puis suivant la recette. Non, t'sais, c'est lui, il a vraiment, là, Alien à lui tout seul, a lancé un genre, puis c'est magnifique. Et donc, pour revenir à Prometheus, c'est que c'est très... On sent un peu l'auto-réflexion par rapport à sa propre œuvre et on aurait aimé qu'il aille plus loin. Maintenant, la seule endroit où il va effectivement beaucoup plus loin que peut-être que Alien, c'est dans sa réflexion métaphysique, Prométhéeus. Donc, le mythe de Prométhée en dit long déjà sur les thèmes sous-jacents dans Prométhéeus, qui sont beaucoup axés sur la création, sur la vie. Déjà, le personnage de l'androïde, il y a plusieurs couches de qui crée qui. C'est, l'humain crée l'androïde, ils vont à la recherche de leur créateur, mais qui a créé les créateurs? Il y a énormément de layers. Le film se passe à Noël, OK? Juste pour vous dire, c'est vraiment pas un incident, OK? Il y a vraiment une espèce de melting pot, pas de créationniste là, du tout, mais quand même, il y a un melting pot qui mélange le christianisme, la mythologie grecque. Et bon, je vais vous en parler un peu du mythe de Prométhée. Prométhée, c'est un titan qui créait des êtres humains à partir de l'argile, qui insufflait la vie à partir de l'argile. Et puis là, Zeus, bon, il trouvait que c'était déjà un petit peu présomptueux puis un petit peu vaniteux de la part d'un titan d'insuffler la vie qui est réservée aux dieux, dans le fond. Mais ça passait jusqu'à temps que Prométhée donne le feu aux êtres humains. Et puis là, c'est là que Zeus dit « Non, 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 Prométhée, tu dépasses les bornes » et qu'il le châtie. Et son châtiment, c'est d'être bon, emprisonné à tout jamais. Et chaque jour, il se fait enlever le foie et qui est mangé par des aigles. OK? Mm-hmm. Mais là, écoute, c'est une métaphore visuelle tellement in your face là, dans Prométhéeus. Parce que, bon, évidemment, déjà, le chest qui ouvre, puis les c'est déjà très alien, on s'entend. Ouais. Mais dans Prométhéeus, il pousse encore plus fort avec, bon, je veux pas rien dire, mais il y a une scène d'accouchement, entre guillemets. C'est la scène dont on parlait plus tôt, Rémi et moi, qui, moi, je crois, va tomber dans les annales du film d'horreur comme étant l'une des plus belles et des plus stressantes et des mieux faites, point. Cette thématique-là de création, d'insuffler la vie, est poussée très, très loin. Il y a une réflexion qui est poussée loin. Dans Prométhéeus, je peux peut-être quand même parler de l'opening sequence, qui est avant le générique. Là, donc, c'est vraiment pas un gros spoiler.
Oh my God!
Mais... Ouais.
C'est peut-être la seule scène qui est de trop dans le film, hein?
Ben, moi, je trouve que oui. Ça donne déjà une connotation fantastique un petit peu au film qu'on s'y attend pas. Écoute, moi, me faire dérouter, c'est vraiment, vraiment pas quelque chose de négatif, même que j'aime ça quand le film... quand ça me donne pas ce à quoi je m'attendais. Mais là, boum, dès la séquence d'ouverture, il y a un personnage, donc une représentation du personnage de l'engineer, donc des espèces de grands êtres... from outer space, qui aurait créé la vie sur la Terre. Et donc, dès les premières séquences, on voit ces personnages-là dans une place qui pourrait ou ne pourrait pas être la Terre. Et donc, le film commence par un sacrifice de ce personnage-là. Et donc là, tu vois dans une séquence très, très bien animée l'ADN du personnage qui ferait que toute la vie découle de l'ADN de ce personnage-là, d'une planète lointaine qui se sacrifie pour une cause plus grande, soit de donner la vie dans d'autres planètes au climat habitable. Donc, vois-tu, c'est là où Alien n'allait pas du tout là, dans des eaux un peu plus, c'est ça, le métaphysique, borderline religieux, mythologique. Alors, Prométhéeus, d'entrée de jeu, c'est ça. Ceci dit, Ridley Scott s'est un petit peu planté avec cette séquence d'intro-là, je trouve. Parce que tu sais, dans Alien, c'est long avant que tu vois la bébite puis t'appréhendes beaucoup. Là, dans Prométhéeus, dès les premières séquences, on dirait que tu vois tout ce que t'as envie de voir.
Okay. Pis,
c'est, tu sais, un film comme Sunset Boulevard où il y a beaucoup de films qui jouent sur le fait que on voit un peu la fin au début du film, et donc c'est ça qui rend fascinant le voyage entre guillemets. Dans Sunset Boulevard, on sait que le personnage principal va mourir, et donc c'est ça qui c'est d'autant plus intéressant de savoir comment. Il y a des films qui ne dévoilent pas leur fin, mais qui auraient peut-être gagné à le faire. Moi, je pense que Shutter Island, par exemple, aurait été un meilleur film si on avait su le twist ending d'entrée de jeu, et donc là, on aurait pu juste voir, par exemple, ben ça c'est très personnel, mon opinion, mais on aurait pu voir...
Peut-être pas nécessairement sans dévoiler Shutter Island, mais...
Ouais, non, sans dévoiler, non, je dévoile pas Shutter Island, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une couple de films où les twist endings fonctionnent très bien, il y a une couple de films où peut-être qu'ils auraient gagné à dévoiler un peu plus leur twist au début du film pour qu'on s'attarde plus à l'histoire, bref, à comment que que ça s'ouvre devant nous. Dans Prometheus, je pense qu'il s'est tiré dans le pied en montrant dès le début du film un petit peu ce qu'on veut voir.
T'sais. Donc, est-ce que tu conseilles aux gens d'arriver avec 5 minutes en retard au film?
Ben, sérieusement, oui. Moi, j'en ai dit à Rémi en plus en sortant du film, je dis, mais... tu fais juste enlever la séquence d'intro, puis le film est meilleur. Moi, là, c'est aussi simple que ça, puis ça l'affecte. Ça l'affecte.
Ouais, mais vraiment, ça donne une grosse coche, parce que c'est comme... C'est parce que t'as comme un film qui est basé sur, tu sais, la... Bon, la science, entre guillemets, c'est de la science-fiction, fait que ça existe pas, là, mais c'est quand même, tu sais, c'est des trucs scientifiques, donc qu'il y a une explication comme dans l'univers du film. Mais ça, c'est quasiment comme... Ça commence quasiment avec de la magie, là. C'est quasiment c'est comme abracadabra, puis c'est ça qui arrive. Là. C'est plus fantastique que scientifique, tu sais, c'est ça le problème.
Puis est-ce que c'est une manière, dans le fond, pour le film de se déjouer les critiques, de dire, ben écoutez, comme vous savez au début, il n'y a rien de vrai dans ce film-là, de toute façon, c'est la fiction, tu sais.
Ben on verse dans le fantastique.
Ouais.
Et c'est peut-être pas mauvais en soi, mais là où tu as une fanbase de science-fiction qui est très, très, très quand même basée sur un univers, comme on a dit, science-fiction, moi, je trouve que c'est un gros coup dans la face aux gens. Moi, ça m'aurait pas dérangé qu'ils easent, c'est un autre anglicisme, désolé, mais qui lentement mais sûrement, qui ouvre le spectateur à cette dimension fantastique-là. T'sais, là, on l'aurait digéré beaucoup mieux.
Plutôt que de laisser de lui faire avaler dès le début.
Ouais, c'est ça. Là, c'est comme la pilule est trop grosse au début. Puis non seulement elle est trop grosse au début, mais il se tire dans le pied parce qu'il montre. Il montre physiquement ce qu'on veut voir. T'sais. C'est comme si le premier Alien commençait avec un shot là, du xénomorphe, là, un shot du Alien où on le voit très bien.
Close-up, c'est ça.
En close-up de jour. Tu sais, ça aurait pas été pareil. Là.
Ouais.
Puis bon...
Bref.
Je critique Prometheus d'être un petit peu trop à l'image de Alien. Puis là, c'est drôle parce que ma critique négative vient du fait qu'il a été en dehors de Alien. Bon, tu sais, il y a des moments où ça marche, il y a des moments où il faut déjouer. Mais ça, je trouve que oui, tu as essayé de déjouer Ridley, mais je pense pas que c'est la bonne façon parce que ça enlève énormément de poids à l'attente qu'on a par rapport au film, par rapport au, entre guillemets, bébite. Je pense pas que c'était un bon device de narratif. Bref.
Ridley Scott, si tu nous écoutes, pour ton Director Scott, coupe la première scène.
Ouais, juste enlève-la. Tu sais.
Mais les deux, vous m'avez l'air très, très désenthousiaste, donc j'imagine que vous conseillez à tout le monde.
Oui, très, ouais, très, très, ouais, très bon. Ouais, ouais. Vraiment bon. Moi, je l'ai préféré de loin à The Avengers, pour ce que ça vaut.
Bon. Autre film, grosse sortie, cette fois-ci, qui va sortir vendredi prochain, donc le 15 juin, c'est Moonrise Kingdom, le dernier né de Wes Anderson. On l'a tous vu. Et en un mot commençant, wow!
Chef-d'œuvre, honnêtement, là, c'est...
Toi, tu te risques à dire chef-d'œuvre? Je sais pas si je me risque à dire chef-d'œuvre.
Oui, moi, oui.
Mais je pense que pour moi, c'est peut-être le meilleur film de Wes Anderson. Ceci dit, je n'ai toujours pas vu Wild Tenenbaums, supposément son meilleur.
Tu dis que c'est son meilleur, mais c'est pas un chef-d'œuvre. Mais moi, quant à moi, sa filmographie, c'est comme une filmographie quand même de chef-d'œuvre. La plupart de ses films, c'est des gros comme... Tu sais, Royal Tenenbaums, Life Aquatic, c'est des grands films, là.
Ben, on a fait pas une discussion de chef-d'œuvre, mais pour moi, chef-d'œuvre, c'est pas nécessairement un grand film. Pour moi, chef-d'œuvre, ça va plus loin que ça, là. Mais, ouais, Moonrise Kingdom, c'est un trip pop, hipster, rétro. C'est excellent.
C'est Wes Anderson qui fait du Wes Anderson mieux que Wes Anderson. Ouais. C'est... Parce que Wes Anderson, il est facile à pasticher, il a un style unique, il a un style visuel assez unique.
Il est facile à imiter, mais il est difficile à égaler.
Il peut pas égaler, puis là, il s'est pastiché un peu peut-être, mais il s'est surpassé. Oh, ouais. Les plans, c'est tellement calculé, c'est tellement...
Pour moi, c'est du cinéma pur. Ça rappelle l'énergie des films de la Nouvelle Vague avec la nostalgie, la maîtrise des films américains. Pour moi, c'est un film
C'est un des plus européens des cinéastes américains. Avec Woody Allen, Wes Anderson, c'est un des plus européens aux États.
Ouais. Moonrise Kingdom, en gros, c'est l'histoire de deux jeunes protagonistes, un gars et une petite fille. Le gars, il est scout, la fille lit des livres. Et les deux vont fuguer, en fait, pour vivre une histoire d'amour lors de l'été 65.
Un été qui est marqué par... Ça se passe dans une petite île de Nouvelle-Angleterre.
Ouais.
Et c'est un été historique, car il est marqué par la plus grosse tempête de la seconde moitié du 20e siècle qui a frappé cet endroit. Et donc, il y a un background de Arche de Noé, tempête un peu, encore une fois.
Ouais.
Oh, je parlais, c'est drôle, parce que je parlais de Prométhéeus qui avait des références bibliques et de christianisme. Ouais.
Là, c'est pas du tout subtil.
Il y en a plein, c'est ça.
Mais c'est léger. Je veux dire, là où Ridley Scott, il va dans quelque chose où on peut analyser puis s'amuser à décortiquer d'un point de vue très intellectuel. Là, ici, c'est bonbon. C'est plus l'image populaire de l'Arche de Noé puis des animaux. Ouais.
Et puis, tu sais, je parlais de la Nouvelle Vague, mais c'est tellement facile, en fait. Tu sais, les synopsis de films de la Nouvelle Vague, ça semble souvent décevant, mais il faut les voir pour comme comprendre l'engouement. Et puis, pour moi, du Wes Anderson, c'est pareil. Ces scénarios, pour moi, j'ai l'impression que ça part de juste des petites idées. J'ai l'impression que pour ce film-là, Wes Anderson a juste dit ouais. Hey, c'était le fun, hein, les scouts, mais il me semble qu'on devrait faire un film à l'entour de ça. Donc, vraiment, le film, c'est dans la manière qui s'est raconté, c'est dans les détails, c'est dans la performance d'acteur, c'est dans l'univers qui est créé. Parce que Wes Anderson, c'est vraiment un auteur à 100%. Il écrit tous ses films. C'est souvent des films qui sont co-écrits avec d'autres scénaristes. Celui-là,
avec Roman Coppola, d'habitude, en fait. C'est avec Roman Coppola qui écrit la plupart de ses films.
Il a écrit aussi avec Owen Wilson, beaucoup. Mais ouais, celui-là, c'était co-écrit avec Roman Coppola. Et c'est un film magnifique. Écoutez, la bande sonore est géniale.
Alexandre Desplat, c'est magnifique. Puis c'est ça, c'est énormément aussi de musique préexistante, donc de musique classique. Ouais. Il y a aussi une thématique autour de Benjamin Britten.
Une des forces de Wes Anderson, c'est sans contredit sa direction artistique, son sens du détail, son choix des couleurs, son esthétique. Qu'est-ce que vous en avez pensé dans ce film-là?
Ben, ça reste, je veux dire, il garde son style, mais c'est juste comme encore poussé à l'extrême. Puis c'est comme celui-là, il est un petit peu plus cartoon, par exemple. Mais il me semble, là. Ben, il vient juste de faire Fantastic Mr. Fox. Fait que là, il est avec ça. Parce que son dernier en live, je l'ai trouvé un petit peu plus calme, mettons, dans l'esthétique. Là. C'était Dungeon Limited. Là. Ici, pour pouvoir être dans une maison, pour avoir les camps scouts, les tentes, on dirait qu'il utilise vraiment tous les décors pour avoir vraiment comme son esthétique, là, la direction artistique qui ressort, les petits éléments à gauche puis à droite.
Oui, et puis Wes Anderson, c'est un des rares cinéastes que je trouve qui utilise excessivement bien le cadre et le formoscope, le 2.35. C'est, tu sais, maintenant, c'est un peu un standard de salle de cinéma de diffuser ton film en format 2.35, là. Mais lui, Wes Anderson, c'est un des meilleurs pour se dire, ce film-là ne pourrait pas cadrer en 4.3, tu sais. Tu pourrais juste pas faire un film de Wes Anderson en 4.3, ça serait tellement dénaturé son univers, puis c'est fou à quel point que le cadre est meublé parfaitement. C'est très difficile, je crois, de bien composer en formoscope. Moi, je trouve qu'il y a énormément de films qui ne méritent pas ce format-là, que c'est juste fait de façon un peu automatique, parce que les salles de cinéma et l'exploitation en salle est faite de cette façon. Wes Anderson utilise son cadre et son format panoramique de façon sublime. La direction artistique, c'est très baroque, hein? C'est chargé, c'est très...
C'est très jaune.
Mais en tout cas, c'est Moonrise Kingdom. Moi, j'ai trouvé, regarde, avec la possible exception de Royal Tenenbaum, que pour moi, c'est, regarde, c'est tout est là. Mais ça serait peut-être quasiment son meilleur pour de vrai. Les seules micro-critiques que je pourrais faire à Moonrise Kingdom, c'est un petit peu quand ça tombe un petit peu trop dans. Le côté cartoon fonctionne très bien des fois. D'autres fois, c'est quand ça devient un peu film poursuite, comme bon, il y a une finale avec le déluge sur le clocher, tout ça. En tout cas, quand ça verse sur le film d'action...
Hey, moi, j'ai adoré, puis c'était, c'était tellement esthétique, puis c'était tellement comme... c'était tourné en studio, mais super assumé en plus, comme en noir et blanc, puis vraiment, là, il joue à fond avec l'esthétique. Je trouvais justement que ça c'est pas du tout hollywoodien, puis il est allé à fond dans son style, puis il s'est pas gêné pour beurrer épais, là.
Mais je trouve qu'il y a une bonne balance dans le film entre les deux trames narratives, parce que la principale, c'est la fugue des deux jeunes. Donc, on voit souvent les deux ensemble.
L'histoire d'un premier amour, en fait.
Ouais, c'est ça, la découverte du baiser, etc. Et de l'autre côté, l'autre trame, ben, c'est ses parents, la police, les scouts qui le cherchent.
Qui le recherchent,
ouais. Exactement. Mais je trouvais que l'histoire entre les jeunes est peut-être plus émotive, plus dramatique, et tandis que celle avec les parents, c'est très, très baroque, c'est très exagéré, c'est super drôle. Mais les deux, autant... Tu sais, c'est un film qu'on peut autant rire qu'être ému. Il y a une scène en particulier qui, dans le fond... ils sont sur la plage, ils installent un vinyle d'une chanson, Le temps de l'amour, de Françoise Hardy. Et puis là, ils dansent un peu sur la plage, et puis finalement, c'est avec leur premier baiser, le premier French kiss, et puis ils vont... c'est suggéré, mais on s'imagine qu'ils font d'autres choses ensuite dans l'attente. Mais c'est tellement beau et émouvant, ce premier contact entre deux personnes qui s'aiment, finalement. Je veux dire, ça reste... Qu'est-ce que le cinéma, sinon, raconter des histoires d'amour? Et puis pour moi, Wes Anderson, c'est un cinéaste accompli, un cinéaste qui est maintenant mature. Et puis Moonrise Kingdom, c'est peut-être l'expression la plus pure et la plus poussée de son cinéma jusqu'à présent.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis, c'est un beau film, justement, c'est ça, sur un amour naïf, un amour naissant, sur quelque chose de... Puis, une belle humanité, parce que c'est ça qui fait la magie des films de Wes Anderson, c'est que ce ne sont pas que des films esthétiques, que des films stylisés.
Des films, mettons, seulement juste, tu sais, un peu comique, un peu bizarre. Là.
Ouais, c'est ça, un peu, ouais, qui mise juste sur le fait que c'est un peu weird, puis un peu offbeat, puis tout ça. Non, il y a une belle humanité qui, même si ce sont des personnages un petit peu caricaturales, ou du moins des personnages très, c'est ça, qui découlent de l'univers de Wes Anderson, tout le temps un petit peu névrosé, ou je sais pas trop, un peu geeky aussi, hein? On sent que Wes Anderson, je pense que c'est un enfant à lunettes un peu geek, là. Je pense que c'est un peu ça qui transparaît dans Moonrise Kingdom, mais c'est ça, marginaux, des personnages marginaux, c'est plus ça un peu que je veux dire, mais l'humanité reste universelle, puis c'est juste beau, puis Wes Anderson fait beaucoup de variations sur le même style, t'sais, lui c'est toujours la déconstruction de la cellule familiale, même dans Fantastic Mr. Fox, c'est les parents, les enfants un peu marginaux comme ça, qui ont de la difficulté à trouver leur place, on ramène toujours à ça, toujours à la famille, toujours aux enfants, aux parents, aux relations interfamiliales, frères et sœurs, dans tous ces films, bref. Encore une fois, même thème, mais d'un autre point de vue. Maintenant, on explore un jeune couple, un jeune amour. Puis c'est un des plus beaux films sur ce sujet-là, tu sais. À part la possible exception de François Truffaut et le film L'argent de poche. Mm-hmm. Je sais pas si vous l'avez vu, ce film-là, les gars. Moi, je trouve que c'est le plus beau film de Truffaut, surpassant même Les 400 coups, à mon avis. C'est un film qui est trop méconnu de Truffaut, d'ailleurs. Non, le plus beau film. Non, je dirais que c'est peut-être Julie et Jim, là, son meilleur. Mais bref, L'argent de poche, c'est un film qui parle de ça. Mais tu sais, à part celui-là que je peux penser, il n'y en a aucun autre d'un amour de jeune de 12 ans qui est aussi beau et qui est aussi humain.
Ce qu'on disait en sortant, Paul puis moi, c'est que aussi c'est un film qui est pour tout le monde. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Parce que des films d'auteur, habituellement, c'est très réservé à un petit public, là. Mais c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut apprécier. Puis aussi, c'est un beau film d'enfant. Paul, tu disais, toi, que t'en as vu plusieurs cette année qui avaient justement ce cachet-là, là. Mais c'est comme un film avec des enfants, mais avec des belles valeurs, là. Comme là, on parlait aussi tantôt de Stand By Me, puis revenir vraiment à les films classiques avec des enfants, là. Les Goonies, c'est un peu extrême parce que c'est plus d'aventure, mais même à ça, Moonrise Kingdom, il y a sa trame d'aventure. Le film avec les belles valeurs, on apprend sur l'amour, la mort, puis tout le reste, là.
Puis on peut aussi faire un parallèle avec le Super 8 de l'an passé pour le côté histoire entre enfants, là. Pas aimé nécessairement le côté science-fiction de Super 8, là, mais l'histoire d'enfants dans ce film-là était très bien jouée aussi. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez pensé des deux enfants principaux, des deux acteurs principaux qui font les rôles de
protagonistes? Ils sont géniaux, puis ils jouent à la Wes Anderson, tu sais, les rôles un petit peu blasés, puis un petit peu froids aussi par moment. Mais oui, hipster, c'est ça. Mais tu sais, ils ont l'air souvent super blasés, mais quand ils reviennent à la charge avec les émotions, ça marche super bien, puis c'est la bonne balance entre la caricature puis le réalisme, d'après moi, là.
C'est ça. Ils sont juste dans l'univers qui nous est proposé.
C'est ça. Ça n'aurait pas pu être demain dans un autre film.
Dans un film réaliste, je sais pas trop. Mais dans l'univers qui nous est proposé, en concordance avec le style visuel du film, avec la façon comment c'est cadré, comment que le scénario évolue, c'est très juste. C'est très juste. Ils sont bons. La fille, elle me fait penser un peu au casting de, tu sais, mettons, si le film avait été fait 6 ans plus tôt, ça aurait été une espèce de rôle à la Emma Watson de Harry Potter. Je trouvais même qu'elle ressemblait un peu physiquement.
Ceci
dit, avec c'est ça, des répliques à la Wes Anderson, une espèce de névrose. C'est souvent des enfants plus intelligents. Wes Anderson, il aime, je crois, s'attarder à des gens discrets, mais intelligents, justement, des gens qui bouillonnent de l'intérieur. Il va s'attarder justement aux marginaux, un peu geeks, le genre de personnes qui se font.
Qui sont comme lui, finalement.
Qui sont un peu comme lui, j'ai l'impression, puis c'est ça qui est beau, on dirait qu'il parle en connaissance de cause, puis on se demande même quasiment avec un film comme ça s'il raconte pas un peu, s'il romantise pas un peu une première amour à lui-même, je sais pas trop, mais en tout cas, ça a énormément de cœur, moi je le recommande énormément, puis moi j'ai tout vu ses films à Wes Anderson, à l'exception de Bottle Rocket, mais vraiment, à part peut-être Warren Tenenbaum, je trouve que c'est le plus beau de sa filmographie, c'est tellement bon.
Mais on parle d'un directeur extrêmement constant et rigoureux. Tantôt, je parlais de Ozu, mais pour moi, c'est ça, c'est un cinéaste qui a vraiment, on dirait qu'il est hors du temps. Pour lui, il fait ses propres films et puis il n'y a rien qui l'atteint. Il faut aussi faire des parallèles avec Tarantino parce que les deux sont un peu arrivés sur la scène en même temps. Les deux ont un style esthétique et les deux, c'est des écrivains également.
Les deux génèrent des imitateurs à pu finir aussi, là.
C'est ça, mais finalement, c'est t'as beau imiter un style, il faut comprendre que Wes Anderson, c'est plus que du style, c'est du cœur, c'est une démarche, et puis c'est... Tu sais, si c'était si facile que ça de reproduire le film de Wes Anderson, il y en aurait des dizaines à chaque année de films à la Moonrise Kingdom ou à la Life Aquatic ou de Steve Zissou, mais il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que Wes Anderson, c'est facile à imiter, mais c'est dur à égaler.
Ouais, exactement.
Ouais, pour moi... style, il fait son affaire, c'est ça qui est cool, là. Il se fie pas aux tendances, il va faire. Tu sais, c'est un artiste, là. C'est vraiment un artiste. C'est pas l'homme du producteur qui suit la recette, là. Il fait, ce qu'il drive et ce qu'il a envie de faire, là.
Puis la machine va. Tu parles de producteur et tout ça, mais les gens vont s'annexer à Wes Anderson pour Wes Anderson. Écoute, Wes Anderson fait des publicités, puis même ses publicités sont signées Wes Anderson. On en a linké une sur la page de Point de vue, vous irez voir, mais tu sais, tu peux pas le mettre en cage, Wes Anderson, tu sais. C'est trop communicatif, son style, puis il est trop là, puis le monde l'aime trop pour ça, puis tu peux pas dire à Wes Anderson d'arrêter de faire des films de Wes Anderson, tu sais, ça a pas de sens, là. C'est, comme je te dis, même en publicité, il est capable de mettre sa touche, puis ça marche, bordel. Regarde, Moonrise Kingdom, moi, c'est le film de l'année à date, c'est pas compliqué, là.
Ben, pour moi, sans être une surprise, le film a comblé toutes mes attentes et même plus. Et c'est ça, pour moi, je dirais, j'ai pas vraiment de défaut à reprocher à ce film. C'est un film fabuleux qui va sans doute se retrouver en mon top 10 à la fin de l'année. Bon. Je le recommande vraiment à tout le monde. Toi, Rémi?
Oh boy, c'est certain, c'est tellement feel good, là. Tout le long tu te sens bien quand tu l'écoutes, puis quand tu finis, ça finit avec le sourire, puis ouais, c'est sûr, recommandé à tout le monde, un des meilleurs films de l'année, là.
Ouais, puis un bon rôle de Bruce Willis, hein. Il est vraiment bon, j'ai trouvé, dans ce film-là.
Ben pour moi, c'est pas un film d'acteur, parce que oui, je veux dire, non. Le casting est fabuleux, c'est le fun de voir certains caméos que je veux pas dévoiler... Les noms, mais c'est ça, il y a vraiment plein d'acteurs dans des rôles-titres, là, Edward Norton, Bruce Willis, Bill Murray, comme à l'habitude.
La sixième collaboration avec Bill Murray. Hein.
Mais pour moi, c'est pas des films qu'on écoute pour les acteurs. Je disais, oui, ils font partie de l'ensemble, mais il y a rien qui se démarque.
Ce sont des films d'ensemble aussi. C'est pas des films qui sont sur le dos de un ou deux personnages. En fait, là, peut-être que oui, sur Moonrise Kingdom, c'est peut-être le film qui est le plus centré. Mais encore là, comme tu dis, Paul, il y a un parallèle entre... c'est une histoire quand même en parallèle. Autant que t'as la quête amoureuse des deux enfants qui veulent... Ouais. Des deux enfants marginaux qui veulent quitter leur foyer puis qui veulent juste se retrouver ensemble puis vivre leur amour à plein ensemble. Mais parallèlement à ça, t'as tous les parents, t'as toute la recherche, t'as le chef scout qui veut pas perdre la face devant son supérieur scout. Puis, tu sais, ça reste un film d'ensemble. Puis c'est ça qui fait la force des films de Wes Anderson, je crois. Puis non, c'est ça, c'est pas des films d'acteurs. Là où, mettons, un film de Terrence Malick, c'est pas des films de comédiens. Terrence Malick crée ses performances avec le montage. Ben, Wes Anderson, il crée ses performances avec son cadrage, avec son univers, avec les accessoires que les personnages ont, avec la direction artistique. Tu sais, c'est ça. Et jamais qu'il va avoir un close-up soutenu puis que les micro-variations dans le visage d'un comédien va créer une performance. Tu sais, c'est vraiment pas ça qui l'intéresse. C'est le personnage dans son contexte, dans son univers, dans son ensemble. Et puis l'émotion passe. Que du bon à dire de Moonrise Kingdom pour moi.
Donc, ça sort vendredi dans les cinémas et on vous le recommande chaudement. Sur DVD cette semaine, Rémi, qu'est-ce qui sort?
Ouais, je vais y aller rapidement vu qu'on a quand même étiré ça dès nos discussions. Donc, en DVD, il y a Accident, un film de Hong Kong. Il y a l'excellent Ghost Rider Spirit of Vengeance. aussi,
t'es sérieux,
tous les amateurs de Ed Wood. Oui, je suis très sérieux, voyons donc. Non, c'est une blague. on a aussi le classique de Ed Wood, Glenn or Glenda, qui est en réédition sur DVD. Le film In Darkness, on a Sherlock Holmes 2. Donc ça, c'est peut-être la grosse sortie de la semaine. Ensuite, sur Blu-ray, on a encore une bunch de films qui sont maintenant disponibles. Je les nomme rapidement. Les Boys 3, Dead or Alive, Gold Rush en Criterion, Harold et Maud en Criterion, Hurt Locker, il y a Holy Man, Lethal Weapon, la quadrilogie va être disponible en Blu-ray. Meatballs, New York Stories, où Woody Allen avait collaboré avec Coppola puis Scorsese. Shallow Grave, le premier film de Danny Boyle, et Universal Soldier. Et finalement, à la télévision, Entourage saison 8 et G.I. Joe, première saison en dessin animé.
Voilà. Je suis content cette semaine depuis le temps que j'attends Lethal Weapon en Blu-ray. Et toi, Pascal, qu'est-ce qui sort en salle?
Il y a beaucoup de films qui sortent en salle, mais je ne sais pas à quel point il y en a beaucoup de mémorables. Ben, évidemment, il y a Moonrise Kingdom que courez le voir. Là. C'est, si vous écoutez le podcast, c'est que vous êtes cinéphile. Si vous êtes cinéphile, c'est que vous aimez Wes Anderson. Puis si vous aimez Wes Anderson, ben, c'est un de ses meilleurs. Fait qu'allez le voir.
C'est sûr qu'il n'y a personne qui n'a le droit de ne pas aimer Wes Anderson.
Ben non, je fais des jokes quand même. Non, il y a quand même. Bon, bref. Puis je l'ai dit, hein, si vous n'avez pas aimé les autres films de Wes Anderson, Moonrise Kingdom, vous l'aimerez probablement pas. C'est du Wes Anderson, très, très Wes Anderson. Il y a un film qui est intéressant, par exemple, que moi, je n'ai pas vu, mais qui est quand même très intéressant, qui sort en salle le 15. C'est le film Les Acacias, je ne sais pas si je prononce bien, c'est en espagnol. C'est le film qui avait gagné la Caméra d'Or en 2011 à Cannes. Donc, La Caméra d'Or, c'est le meilleur premier film. On parle de Cannes, on parle du festival le plus prestigieux au monde, j'ai l'impression. La Caméra d'Or, c'est pas banal. Donc, c'est un film que je connais pas, c'est un film d'Argentine, coproduction Argentine-Espagne, qui sort en salle, là, entre autres au Cinéma du Parc, vendredi. Donc ça va être très, très intéressant. Sinon, il y a le film avec Adam Sandler qui s'appelle That's My Boy. C'est ça. Je peux y aller en rafale aussi. Il y a Foreverland, un drame canadien qui sort. Il y a pas grand-chose d'autre, je vous avouerai. Fait qu'en gros, c'est vraiment Moonrise Kingdom. C'est autour de ça. Donc, voilà.
Donc, en musique, on va découvrir le groupe Livla. C'est un groupe qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, un groupe du lac. Ils vont s'établir bientôt à Montréal, dès l'HT, et vont sûrement proposer quelques shows à la fin de l'été. Donc, si vous aimez ce que vous entendez, eh bien, allez sur Facebook. Ils ont une page. Le groupe s'appelle Livla. On va entendre la musique, la chanson « Pardue ». Donc, mon nom est Paul Landriot et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante, qui a une belle semaine de cinéma et qui vous conseille d'aller voir les films qu'on vient de critiquer aujourd'hui, parce que Prometheus et Moonrise Kingdom, c'est de la bombe.
Ça rock!
Ah ouais, la musique! Non, Rémi, on a une vraie musique cette semaine.
Je sais!
Comment partir brièvement par Pascal Plante?
1, 2, 3, musique!